Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Sami Badibanga, ancien Premier ministre, actuellement député national. Il est aussi candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Avec lui, nous parlerons des principales questions liées au processus électoral. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Honorable Sami Badibanga, bonjour.
Bonjour.
Vous le savez, du 5 au 7 octobre 2018, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a séjourné en RDC et elle a recommandé à la classe politique de trouver un consensus sur la machine à voter et le fichier électoral. Quelle est votre réaction?
Je crois que on n'a pas trop le choix. La situation est bloquée. Actuellement, la CENI se cramponne à sa machine à voter. Elle a l'appui de la majorité et l'opposition ne veut pas de la machine à voter. Nous n'en voulons pas parce que cette machine à voter est une boîte noire à mon avis. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a en son sein. Il y a les Britanniques qui sont passés dernièrement. Ils ont fait quelques recommandations dont on espère qu'elles seront appliquées. Mais ils ont bien précisé qu'ils n'ont pas pu auditer cette machine à voter. Et donc la question, c'est vrai que c'est une question technique, mais il y a aussi un problème politique. C'est qu'il n'y a pas de confiance entre les parties prenantes, entre les acteurs politiques et même avec la société civile. Et donc il y a ce problème de confiance. Pour avoir cette confiance, nous avons besoin de transparence. Et c'est cette transparence qui pourra crédibiliser les élections et donc les résultats à venir. Donc si la question de la transparence n'est pas réglée avec cette machine, c'est le point où on en est. Il est difficile qu'on puisse accepter d'aller aux élections avec cette machine en l'état. Les Britanniques ont fait des recommandations, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous-mêmes aussi, patriotes et parties prenantes à cette élection, nous avons aussi des revendications par rapport à ce processus que nous allons faire valoir. Il y a le problème de la légalité de la machine qui se pose. La loi électorale ne parle pas de cette machine à voter. La CENI nous fait croire, dans des sous-entendus, qu'on parlerait de la machine. Le calendrier prévoit une période pour la production des bulletins de vote, alors que nous venons de nous rendre compte que la machine, en fait, dans sa mallette, contient déjà des bulletins de vote. Le rapport de Westminster parle de 900 000 bulletins de vote, mais à la CENI, on nous dit que c'est 660 000 bulletins de vote. Quand vous les multipliez par rapport au nombre de machines que nous attendons, c'est-à-dire 106 000 machines, on est largement au-delà des 42 millions d'enrôlés. Bien que nous sachions en plus qu'il y a toujours un gap entre le nombre de votants et le nombre d'enrôlés. Mais cet excédent de bulletins de vote, à quoi est-ce que ça va servir? Tout ça, ce sont des questions de transparence dont nous voulons savoir. Il y a une transmission de résultats électroniques qui est prévue de la machine au centre de transmission et en définitive au niveau du serveur central. Il n'y a aucune transparence au niveau de cette transmission. Tous ces éléments-là devraient être vérifiés, contrôlés, pour nous permettre d'aller aisément à ces élections. Et en plus, il y a ce problème du fichier électoral. Il y a entre 6 millions et 10 millions d'enrôlés sans empreinte. Le nombre est excessif. L'opposition parle de la radiation de tous ces enrôlés. La CENI, par contre, préfère les garder. Mais nous devons discuter pour savoir quelle serait la meilleure solution qui nous permettrait donc d'aller aisément à ces élections.
Est-ce que ce consensus, il est possible? Est-ce que la République ne va pas droit dans une crise? Parce que vous l'avez dit, la CENI tient et au fichier et à la machine à voter. L'opposition n'en veut pas, la majorité a presque le même point de vue que la CENI. Où allons-nous?
Mais vous savez, nous sommes à la veille de juillet 2016. À l'époque, vous vous rappelez, avec les discussions qui ont eu lieu à la Cité de l'Union africaine. De nouveau, nous sommes dans un blocage avec le problème du fichier électoral. L'OIF a fait des recommandations qui ne sont pas encore totalement appliquées. Maintenant, nous avons besoin d'un langage de vérité. Est-ce que la CENI est en mesure d'organiser les élections le 23 décembre? J'ai des doutes. Pourquoi des doutes? Je prends un cas pratique, nous prenons la logistique de la CENI. La CENI a encore des machines qui sont en Corée. Quand vous te prenez le délai de livraison de la Corée à Matadi, c'est 65 jours. Or, nous sommes là à 58 jours de l'organisation des élections. Et encore, il faudrait que les machines arrivent à temps pour le dispatch, en tout cas dans la partie ouest. Il faut aussi faire la même chose dans la partie est, c'est-à-dire avec le port de Mombasa et de Dar es Salaam. Est-ce que les transporteurs ont été contactés? J'en doute. Les contrats ne sont pas signés. Les pétroliers, est-ce qu'ils ont pu signer ce contrat et ils ont pu percevoir l'argent pour faire le nécessaire? Tout ça, j'en doute que dans les 50 jours, que la CENI puisse remplir ce devoir et que nous puissions avoir les élections à temps. Mais nous demandons donc à la CENI d'avoir un langage de vérité et de nous le dire très clairement.
Et donc vous auriez par exemple souhaité, comme l'a proposé la CENCO à un moment, que cette machine soit certifiée?
Oui, la machine aurait dû être certifiée pour mettre tout le monde à l'aise. Il y a déjà un problème de légalité, il y a deuxièmement un problème de confiance, et donc nous avons besoin de cette transparence et de cette crédibilité qui pourra nous permettre d'aller aux élections. Ça pose un réel problème. Donc les discussions, maintenant il y a un problème. L'opposition ne prendra jamais la responsabilité de nous engager sur la piste des discussions. La majorité continue à parler de la date du 23 décembre comme étant une date fatidique et donc on aura ces élections, on va voir. Et la CENI semble aussi ne pas vouloir prendre cette responsabilité. Donc il y a un réel blocage.
La CENI, elle, s'est dit techniquement prête et le gouvernement congolais ne veut pas de l'appui logistique de la MONUSCO. C'est quoi l'issue selon vous?
Il faut qu'il y ait un détonateur qui pourrait prendre... des responsabilités à travers ce langage de vérité, et ce qui va nous amener à voir la situation en face. En principe, cela doit partir de la CENI, qui pourrait effectivement non seulement nous le dire que techniquement ils sont en mesure d'organiser les élections à temps, mais aussi de nous le prouver. Peuvent-ils nous mettre sur la table les lettres de transport qui prouvent qu'effectivement les machines ont déjà quitté la Corée? Je vous ai dit, c'est quasiment 65 jours. Il y a d'autres matériels qui se trouveraient en Inde et même en Chine. Il y a plus de 300 conteneurs qui sont encore en Asie. C'est 40 à 60 jours. Est-ce qu'on peut nous prouver que c'est déjà dans les différents navires? Parce que il faudra encore que les navires fassent une ligne directe. Or, pour louer un navire, c'est 4000 conteneurs. Pas 4000 conteneurs qu'on a là, c'est 300 conteneurs. Ou vont-ils le faire avec par avion? C'est 100 fois plus cher. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous désirons avoir pour être sûr qu'effectivement nous allons avoir ces élections. Le dire ne nous suffit pas.
Radio Okapi. Grande interview.
Sami Badibanga, vous êtes ancien Premier ministre, actuellement député national. Vous êtes également candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.
Est-ce qu'à ce jour, on peut confirmer, compte tenu du financement, ces élections, que la date du 23 décembre 2018 sera respectée?
Si j'émets mes doutes, c'est justement par rapport à cette expérience que j'ai du gouvernement. Le financement, encore une fois, on doit nous prouver que tous les fonds ont été payés. Ça encore, il y a des voix qui se lèvent pour dire que le financement n'est toujours pas arrivé et qu'il y a des trous. Donc, nous aimerions bien avoir des preuves sur ces différentes questions pour permettre notamment aux candidats de prendre les dispositions nécessaires. Vous savez, commander, tout le monde sait que c'est en Asie que ça se passe. commander le matériel pour la campagne, le faire venir et le dédouaner, c'est plus de 60 jours. Et donc, si les candidats passent leurs différentes commandes, il faudrait effectivement qu'on ait ces élections. Stocker 30 000 ou 40 000 t-shirts, si pas plus, avec ce climat ici à Kinshasa, vous avez des fortes chances de détruire le matériel pendant le stockage.
Vous martelez, vous revenez souvent sur l'aspect confiance, mais vous avez suivi le président de la CENI à un moment qui a déclaré qu'il n'avait pas besoin de confiance, mais vous avez été reçu, vous, les candidats présidents de la République, la semaine dernière, et il semblerait qu'en termes de confiance, cette réunion se soit mal terminée.
Mais justement, parce que je crois qu'il s'y prend mal. Mais en même temps, je le comprends. Le président de la CENI est un technicien, mais il a affaire à des politiciens. Le débat est politico-technique. Et les politiciens vont mettre la pression au maximum. Et donc, ça arrivera qu'il craque comme ça s'est passé la dernière fois. Mais s'il y a cette pression, c'est justement pour avoir des éléments clairs et probants. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc nous avons besoin de ce contrôle et de cette transparence qui va amener la confiance.
À moins de 80 jours de la date des élections, l'opposition n'a ni programme commun, ni candidat commun. La population qui vous suit doit-elle craindre que l'opposition n'aille encore à ces élections de manière dispersée?
Je le déplore, malheureusement, je le déplore. Vous savez, l'opposition, elle est plurielle. Il y a plusieurs oppositions. Et donc, on n'arrive toujours pas, c'est une vérité, à se mettre ensemble. On aurait dû avoir ce programme commun déjà, en ce moment-ci, parce que ce n'est qu'avec le programme commun que cela permettra de faire un choix sur le candidat commun ou le meilleur d'entre nous qui pourra présenter ce programme et pouvoir le mettre en pratique. Bien que, à mon avis, avec cette alternance que nous souhaitons de tout cœur, c'est une équipe qui doit arriver. C'est pas une personne qui doit être au pouvoir. C'est toute une équipe qui doit être en mesure de mettre les différentes réformes et différents programmes prévus en exécution.
Il semblerait, selon certains analystes, que vous, les opposants, vous ayez des égos tellement surdimensionnés que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord.
Bon, les gens parlent souvent d'une question d'ego, mais je vais plus loin. C'est pas seulement une question d'ego avec les personnes, c'est une question de culture. Vous savez, les négociations viennent d'une culture anglophone. Les francophones n'ont pas trop cette culture, et encore moins, j'allais dire, les Congolais. Et donc, c'est une culture que nous devons construire pour arriver à quelque chose. L'homme politique doit être un homme de compromis, un homme de discussion pour pouvoir arriver à quelque chose en privilégiant l'intérêt collectif à l'intérêt individuel.
Est-ce qu'une autre option, honorable Sami Badibanga, ne serait pas que l'opposition aille aux élections avec tous ses candidats afin de savoir finalement qui vaut quoi?
C'est une possibilité, mais ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution aurait été, ou est, d'unir nos forces pour pouvoir battre campagne, battre le pavé, pour que notre champion puisse gagner ces élections. Mais le plan B serait aussi qu'on ait plusieurs candidats, de telle manière qu'on puisse éparpiller les voix qui pourraient revenir à la majorité et nous permettre d'avoir un favori. Mais ceci étant, j'ai quand même de crainte avec cette formule. J'aurais préféré et souhaité en tout cas l'arrivée d'un candidat commun.
À un certain moment, certains opposants ont proposé qu'il y ait des primaires au niveau de l'opposition pour pouvoir dégager, passez-moi le terme, le meilleur candidat et le meilleur programme.
Oui, c'est bien beau de le dire, mais comment le faire? Je viens de vous le dire, l'opposition est plurielle. Qui seront les électeurs? Où est-ce que ça va se passer? On n'est pas dans un pays développé. Ça sera un vote par Internet, rien que Kinshasa ou les autres provinces. C'est plus facile à dire qu'à le faire. La logistique va nous poser un gros problème, et même déjà le choix de ces différents candidats. Tout ça doit se faire dans un bon esprit, dans un esprit de compromis, de négociation. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une équipe qui arriverait au pouvoir et non en faisant une course au pouvoir où une seule personne devrait arriver à la tête de l'État.
Et donc les auditeurs et les internautes qui vous suivent doivent retenir que le programme commun de l'opposition, la candidature commune, c'est donc mission impossible.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'espère que ça ne soit pas un slogan. Mais malheureusement, le chrono est en train de tourner. Et donc là, on arrive à quelques jours des élections. Si ces élections doivent être... la date doit être respectée. On a parlé du 23 décembre. 58 jours, à quel moment est-ce que ce candidat va passer sa commande et recevoir tout son matériel à temps? C'est des difficultés, mais je continue à espérer.
À quelques mois des élections, certaines personnalités continuent à soutenir l'idée d'une transition. Peut-on encore évoquer en ce moment une transition où il y a déjà une date qui est fixée, où la CENI s'est dit techniquement prête? Si transition il devrait y avoir, ce serait sous quel format?
Je ne l'espère pas. De tout cœur, je préfère ne pas penser à une autre transition. Je souhaiterais vraiment qu'on ait des élections. S'il y a un léger retard, mais vraiment, si on peut respecter la date du 23, nous devons la respecter. C'est ça l'impératif. Mais me parler de transition, je ne suis pas dans cette logique-là.
Alors, quels sont les préalables pour vous, honorable Sami Badibanga, pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes et surtout apaisées?
Vous venez de le dire, c'est la confiance, c'est la transparence dans le système électoral. Donc au niveau des machines, au niveau de la transmission des données, au niveau du serveur central, c'est aussi cette même transparence au niveau du fichier électoral. C'est le respect de la loi par rapport aux différents candidats, la possibilité de pouvoir accéder aux médias. C'est la sécurité des candidats qu'il faudra mettre en place. C'est le respect de toutes ces lois dont j'en fais un préalable pour avoir des élections apaisées. Vous savez, la machine en état aujourd'hui et ce fichier porte les germes de la contestation des résultats à venir. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait essayer de régler le problème bien avant.
Sami Badibanga, ancien Premier ministre, actuellement député national, vous êtes également candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.
Pour vous aujourd'hui, que représente encore l'accord de la Saint-Sylvestre?
Vous savez, cet accord-là, je n'y ai jamais cru. Je l'ai toujours dit que c'était un bluff. Il y a quelques mois, le chef de l'État a fait un discours à la nation pendant une heure, je crois. À aucun moment il n'a parlé de cet accord. C'est l'opposition qui continue à en parler. Ça me rappelle un peu à l'époque avec la conférence nationale. Mobutu avait déjà tourné la page et parlé d'autre chose quand l'opposition continue à s'en tenir à cette conférence. Malheureusement, c'est un accord qui n'a pas été mis en application. Mais maintenant que nous sommes à la veille des élections, nous devons mettre toutes nos forces à l'organisation de ces élections pour pouvoir nous départager.
On sent que l'opposition est un peu désorganisée. Est-ce que ce ne serait pas par le fait que le président Kabila ait choisi un dauphin, chose à laquelle ne s'attendait pas l'opposition qui ne misait que sur une transition sans Kabila?
Ça n'a rien à voir. Ce serait une mauvaise stratégie de regarder le camp adverse avant de se préparer. Ça n'a rien à voir. Je crois que le souci que nous avons, c'est que l'opposition est plurielle et que cette opposition, comme la plupart de nos partis politiques, n'est pas assise sur des questions d'idéologie, mais plutôt sur des questions de personnes. Et maintenant, il est question d'avoir un sursaut d'orgueil, j'allais dire, pour faire passer l'intérêt de la République, l'intérêt du pays avant l'intérêt des partis.
Les élections, c'est dans moins de 80 jours, honorable Sami Badibanga. Comment irons-nous à ces échéances dans un contexte où les foyers de tension se multiplient à travers le pays? Il y a notamment l'insécurité dans la partie est, dans l'ex-Katanga. Il y a le phénomène des refoulés, des Congolais refoulés de l'Angola. Plus de 180 000 déjà qui vient s'ajouter à la liste. Comment irons-nous aux élections dans ces conditions?
Vous parlez de moins de 80 jours, mais je vous rappelle que c'est moins de 60 jours. Donc c'est encore plus proche qu'on ne le pense. La sécurité des personnes et des biens, c'est le premier des droits des Congolais. Le gouvernement n'arrive pas à sécuriser la population. C'est un manquement grave à son premier devoir. Mais cela étant, nous n'avons pas envie de mettre de l'huile sur le feu, nous espérons que très rapidement, cette question pourra être mise en priorité, en tout cas dans les différents programmes. Il faudra régler cette question de sécurité. Il faudrait voir très clairement d'où viennent ces attaques. Est-ce que vraiment ces attaques viennent réellement des pays limitrophes? Est-ce que ces rebelles se cachent dans les forêts ou dans les pays limitrophes et menaient ces attaques nuitamment? Mais maintenant, nous voyons qu'on mène ces attaques même pendant la journée. C'est vraiment un problème récurrent qu'il faudra traiter en priorité et pouvoir le régler. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter mes condoléances à toutes les familles éprouvées à travers la République. Vous venez d'évoquer aussi la question des refoulés de l'Angola. Encore une fois, c'est une question de sécurité. Mais sur le plan économique, c'est une question de redistribution de richesses. C'est pour ça que nous devons passer à des réformes vraiment en profondeur pour pouvoir permettre à notre pays d'avoir plus de recettes, que les régies financières rapportent beaucoup plus, ce qui nous permettra de redistribuer ces richesses à travers les différentes couches de la nation et permettre à ce que on puisse avoir un nouveau contrat social, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'autosuffisance alimentaire et de tout ce qui s'ensuit. C'est un problème récurrent qu'il faudra absolument régler.
Honorable Sami Badibanga, les Congolais refoulés de l'Angola vivent dans des conditions très difficiles. On se souvient qu'à un moment, vous avez tirer la sonnette d'alarme concernant la crise humanitaire dans laquelle la RDC sombrait. Vous n'avez visiblement pas été entendu.
En fait, il y a deux points qu'il faudrait relever. Le premier, c'est la brutalité avec laquelle les autorités angolaises ont refoulé nos compatriotes. 250 000 personnes qu'on dégage sans avoir pris les dispositions nécessaires pour leur accueil. Cela prouve de la faiblesse aujourd'hui de notre gouvernement. Sinon, les autorités angolaises auraient dû utiliser les canaux habituels, c'est-à-dire en passant l'information par le circuit diplomatique. Et là, le gouvernement aurait pu se préparer pour accueillir tout ce monde, parce que 250 000 personnes, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un vrai problème. Deuxièmement, effectivement, fin 2017, j'avais tiré la sonnette d'alarme pour parler de cette crise humanitaire qu'on avait sur les bras. À l'époque, on parlait de 7,5 millions de personnes qui étaient vraiment en phase de famine, et cela posait un gros problème. Les besoins étaient évalués à 1,7 milliard de dollars. Et donc j'avais mené les démarches nécessaires à l'époque en discutant avec les Nations Unies, en contactant le secrétaire général des Nations Unies, en ayant un échange avec l'UNOCHA. J'ai aussi parlé avec l'Union européenne et certains États européens, dont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France et bien d'autres. Et nous avons pu obtenir l'organisation de la conférence internationale des donateurs. Donc une conférence internationale des donateurs, ce n'est pas quelque chose de gênant, ça se fait pour plusieurs pays. On l'a vu avec la Birmanie, on l'a vu avec l'Afghanistan, avec plein d'autres pays. C'est ce qui permet à un État de pouvoir recevoir de l'aide de la part de ses partenaires pour pouvoir subvenir aux besoins humanitaires qui sont évalué à ce moment-là. Et donc le besoin était $1,7 milliard. Le 13 avril à Genève, la conférence a été organisée et ils ont pu obtenir $528 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour le gouvernement congolais d'entrer en discussion avec UNOCHA pour premièrement leur demander plus d'aide humanitaire pour pouvoir venir en aide à ces populations et deuxièmement de pouvoir relancer tous ceux qui avaient fait les promesses pour pouvoir venir en aide à nos populations. Puisque j'ai suivi à la télévision sur France 24, où on a dit qu'en tout cas la crise atteignait aujourd'hui 15 millions de personnes. Donc on est passé du simple au double, et donc la crise a atteint son paroxysme aujourd'hui.
Pour revenir à la sécurité, le 2 octobre dernier, ça faisait exactement 4 ans depuis que les massacres de Beni ont débuté, et la société civile de cette partie du pays dresse un bilan macabre de plus de 2000 morts. Beaucoup de Congolais aimeraient savoir ce que vous proposez pour mettre fin à ce genre de situation.
D'abord, c'est la preuve de l'échec du pouvoir en place. Voilà pourquoi nous demandons cette alternance. Si nous arrivons aux affaires, la première des choses à faire, c'est d'essayer de sécuriser cette frontière. Deuxièmement, il faut prendre des contacts avec les pays voisins. Il faut pouvoir collaborer pour savoir exactement est-ce que ce sont des attaques préméditées et volontaires ou ce sont vraiment des rébellions qui essaient de se cacher dans ces différents pays voisins. Il faudrait travailler avec les populations qui en général sont très bien informées. C'est une bataille, une guerre asymétrique comme on dit, et donc la population a un grand rôle à jouer. Et donc il faut ramener cette confiance entre les autorités du pays et la population. Je crois que c'est le nœud du problème. Aujourd'hui, les populations n'ont plus confiance dans les autorités et ça pose un problème. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il y a des percées de ces différentes rébellions à travers les différentes villes et villages que vous venez de citer.
Radio Okapi. Grande interview.
La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a aussi insisté sur la question des respects des libertés fondamentales et à un meeting de l'opposition qui a été empêché le week-end passé à Lubumbashi, alors qu'il y en a un autre qui a été autorisé à Kinshasa et où les choses se sont bien passées. Comment vous analysez ces deux tableaux?
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le respect des lois. L'autorité doit tout simplement respecter les lois et permettre à ce que ces manifestations puissent se dérouler. Rien n'explique pourquoi est-ce qu'on peut empêcher une manifestation comme celle qui était prévue le samedi passé à Lubumbashi. Si on n'arrive pas à régler ce problème, les élections poseront encore une difficulté en plus. Il faut absolument que cela soit respecté. C'est bien le Conseil de sécurité l'a évoqué, mais nous souhaitons aussi que la communauté internationale puisse s'investir pour que les lois de la République soient respectées.
Mais la communauté internationale s'est déjà suffisamment investie, honorable Sami Badibanga. Quelle est la part des politiciens congolais finalement?
Mais vous le voyez, hein, on le fait tout en respectant la loi, c'est en le dénonçant, c'est en menant des manifestations et en jouant aussi avec les médias qui sont à notre portée pour pouvoir le dire. Vous n'allez pas nous demander d'aller nous armer pour mener ce combat. Mais il n'y a pas que les politiciens, c'est ça le problème. Il faut que cette question concerne tout le monde. La jeunesse est le fer de lance déjà sur cette question des libertés. Ce sont les générations à venir qui seront à la tête de ce pays. Vous savez, une démocratie se construit. Elle se gagne de jour en jour, de période, d'époque en époque. Et donc, c'est une partie du combat que nous sommes en train de mener, mais ce combat doit concerner tous les Congolais, pas seulement les acteurs politiques.
Honorable Sami Badibanga, l'émission se termine. Un mot à tous ces millions de Congolais qui vous suivent au pays et à l'étranger et qui voudraient avoir des élections crédibles et apaisées.
Espoir, espoir, espoir. Nous devons continuer à espérer. Nous devons tous continuer à mener ce combat, chacun là où il se trouve. C'est une question qui concerne toute la population. C'est la gestion de la chose publique qui doit intéresser tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on vit peut-être aisément qu'on doit penser qu'on aura réglé son problème. Ça finira par vous rattraper. Et donc un appel vraiment à toute la population, à tous les Congolais, pour pouvoir mener ce combat de l'alternance et avoir des jours meilleurs, j'espère, après le 23 décembre.
Honorable Sami Badibanga, merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Coordination Michel Kifindangoy, supervision Tina Salama, présentation Alain Rung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.